Allez, en place. On va commencer de suite le bazar.
Un fantôme de l'opéra version de Palma.
Un masseur aveugle, mais peut-être pas vraiment aveugle, mais quand même un peu aveugle.
Et Andrea, perdu dans une Norvège aseptisée.
Vous êtes dans...
Pizza.
3.
Métrage. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes dans Pizza 3 Métrages, l'émission cinéma qu'on partage tous ensemble. Je suis avec Maud et Mathieu, salut à tous les deux.
Salut Thomas.
Salut Thomas, salut Mathieu.
Salut Maud.
Eh bien, je me permets de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année.
Mais bonne année à toi aussi.
Très bonne année à tous.
Ouais, j'espère que le réveillon s'est bien passé, que vous avez bien mangé et bien bu, la peau du ventre bien tendue. Que vous allez pouvoir le constater, nous sommes nous-mêmes récupération de réveillon. Alors soyez indulgents avec nous, on fait le maximum pour être en forme et être clair dans nos explications, mais ce n'est pas forcément gagné. On va parler ce mois-ci de trois films. Ces films, ce sont Phantom of the Paradise, Zatoichi et Norway of Life. On va commencer par Phantom of the Paradise, mais avant ça, nous allons écouter un titre issu de la bande originale du film. Il s'appelle The Hell of It et il est composé par Paul Williams.
On dirait une comédie musicale ?
Oui, et il ne manque pas de rythme.
Roll on thunder, shine on lightning. The days are long and the nights are frightening. Nothing matters anyway, and that's the hell of it. Winter comes and the winds blow colder. Well, some go wiser, you just grew older. Well, you never listened anyway, and that's the hell of it. Good for nothing, bad in bed. Nobody likes you, you're better off dead. Goodbye,
goodbye.
We've all come to say goodbye,
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 goodbye.
Born defeated, died in vain. Super destructive, you were hooked on pain. And though your music lingers on, all of us are glad you're gone. If I could live my life half as worthlessly as you, I'm convinced that I'd wind up burning too. Yourself as you love no other. Be no man's fool and be no man's brother. We're all born to die alone, you know that's the hell of it. Life's a game where they're bound to beat you, and time's a trick they can turn to cheat you. And we only waste it anyway, and that's the hell of it. Good for nothing, bad in bed. Nobody likes you, you're better off dead. Goodbye,
goodbye.
We've all come to say goodbye,
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 goodbye.
Born defeated, died in vain. Super destructive, you were hooked on pain. Though your music lingers on, well, all of us are glad you're gone.
Thank you.
Et nous revoilà dans Pizza 3 métrages. Et Maud va nous parler un petit peu de Phantom of the Paradise.
Tout à fait. Donc Phantom of the Paradise, un film de 1974, un film américain de Brian De Palma, avec Paul Williams, qui a écrit et chanté la bande originale, William Finley et Jessica Harper. Alors le film, il est inspiré librement du Fantôme de l'Opéra, roman de Gaston Leroux. Mmh. Et donc l'histoire, c'est un compositeur, Winslow Leech, qui se fait remarquer par Swan, un producteur de musique, et qui compte ouvrir le Paradise, un opéra rock. Et en fait, il repère ce Winslow Leech qui a écrit une cantate qui l'intéresse beaucoup, mais pas du tout le personnage. Donc en fait, il lui vole sa musique.
Le fourbe.
Et il lui vole sa musique et il va se faire un peu, voilà, faire disparaître par Swan et son équipe. Il va se retrouver où, donc Winslow Leech en prison, où on va lui va être un petit peu torturé, on va dire.
Un peu beaucoup.
Un peu beaucoup. Et en fait, Winslow Leech, après quelques mois, quelques années, il va vouloir se venger. Et il est un peu vénère quand même. Et il va hanter donc le nouveau lieu, le Paradise de Swan.
Et une sorte de club.
Entre-temps, il va quand même un peu s'amouracher d'une chanteuse. Voilà. Donc c'est ça le pitch du film.
On a trois films qui vont pas être tous très faciles à résumer, je crois.
Oui, c'est vrai, c'est pas évident. Tout à fait.
Eh ben oui, je vais commencer à en parler.
Mathieu, ouvre le bal.
Un film que je ne connaissais absolument pas. Et puis de toute manière, Brian De Palma, c'est un réalisateur que je ne connais pas. Mais ça m'a donné envie de le rencontrer.
De le connaître. Mais ça tombe bien, je le connais personnellement. Écoutez, je vais l'inviter à la prochaine émission.
Oui, on peut l'inviter, ça sera super. Alors, au tout début, quand j'ai lancé le film, ça m'a tout de suite fait penser à The Rocky Horror Picture Show, que j'ai vu il y a longtemps, quand j'étais, jeune adulte.
Tu es toujours jeune adulte.
Toujours jeune, toujours adulte aussi, oui, peut-être, je ne sais pas. Et c'est une comédie musicale, donc pareil, je ne suis pas du tout un grand fan des comédies musicales, même si j'y travaille. Par exemple, j'ai vu Annette il y a 2 ans maintenant, qui m'avait bien marqué, alors que c'est une comédie musicale, mais ce n'est pas du tout mon style de prédilection, on va dire. Mais j'ai regardé ça avec plaisir quand même. Il y a vraiment un univers à part, des acteurs, il y a des gueules. Je trouve qu'il y a des gueules dans ce film. À part peut-être la chanteuse qui est plus classique, plus voilà. Mais sinon, le compositeur a vraiment c'est un personnage vraiment atypique. Passionné par sa musique, complètement naïf aussi sur l'univers de la musique, en fait, enfin la musique, comment dire ça,
professionnelle, ouais.
Comment?
Professionnelle.
Ouais, voilà, professionnelle, mais aussi, le côté showbiz un peu. Ouais. Showbiz, ouais. Voilà, il compose, un compositeur.
Lui, il est vraiment porté par l'amour sincère de la musique,
ouais, ouais, profond.
Ce qu'il a écrit, quoi. Il va absolument finir, en plus, ce qu'il a commencé.
C'est ça. Donc, il y a un lien avec Faust aussi. Donc, en même temps que je regardais le film, je me suis dit, attends, mais ça... Donc, Faust, moi, je ne connais pas du tout l'histoire. Donc, c'est une adaptation, finalement, de ce conte. Est-ce que c'est un conte, Faust? Est-ce qu'on peut prendre ça pour un conte?
Oui, on pourrait, ouais. C'est une fable, un conte.
Ouais. Mais après le personnage du fantôme, enfin le costume du fantôme, j'ai vraiment adoré. Enfin, il y a énormément de choses dans ce film qui font que, même si on n'est pas un adepte des comédies musicales, même si c'est un film de 1974, donc il y avait quand même des petits... tu sens que c'est un peu daté, mais en fait, on rentre dedans. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un très, très bon moment. Je parlais des gueules, donc je parlais du compositeur, mais Swan aussi, il a une dégaine, il a...
Une petite bouille d'enfant ouais. Un peu machiavélique. Hein.
Bah ouais, d'ailleurs dans le film, on dit qu'il a été connu très très vite, il a, dès ses 14 ans, c'est un petit génie, quoi. Et tu sens qu'elle a gardé un peu ce côté un peu juvénile, mais peut-être à raison... Enfin, pour une raison particulière qui sera dévoilée dans le film. Ouais, très original et très ouais très sombre aussi, mais plein d'amour, plein de Le côté très cartésien des mecs qui veulent faire de la musique. On parle de ce groupe de musique, les Juicy Fruit, au tout début du film, qu'on retrouve après, mais en tant que personnage secondaire, dans l'accompagnement du chanteur principal de la comédie musicale. J'ai passé un bon moment, un très bon moment. C'était vraiment une découverte. Ça m'a donné envie d'aller voir un peu ce qu'avait fait Brian De Palma.
Ouais, mais on va pouvoir en discuter éventuellement un peu une fois qu'on a chacun donné notre ressenti. On va pouvoir revenir un peu sur ce film.
Ben ouais.
Je prends la suite du coup. Alors moi, je l'avais vu pour la première fois il y a une bonne dizaine d'années. À l'époque, c'était un peu un passage obligé quand t'es cinéphile et que tu veux connaître un peu les films marquants du cinéma. Phantom of the Paradise, c'est quand même un film culte. Je pense que t'as raison, au même titre notamment que Rocky Horror Picture Show, c'est des films qui sortent un peu du lot. Et avant de les découvrir, tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques. Je me rappelle très bien moi, de ma réaction quand je l'ai vu la première fois, j'étais « mais what the fuck ?» Qu'est-ce qu'ils disaient ? Est-ce qu'ils se foutent de notre gueule un peu pas par moment parce que c'est hyper maniéré. Tout est exagéré, amplifié. Les acteurs ont. Je pense que c'était une directive de De Palma, mais je pense que les acteurs surjouent par moments beaucoup. T'as des situations qui sont complètement abracadabrantesques. Le scénario part dans tous les sens. Mais il a un fond, il a une idée. Je trouve que l'idée de base du scénario est géniale. Genre, en tout cas, moi, ça me fait rêver ce genre de truc. Une espèce de créature un peu dégénérée qui est un musicien génial, mais qui, du coup, pour se venger, hante un club mythique en composant une sonate en parallèle. Enfin, c'est assez grandiloquent. En fait, c'est un film baroque, je pense, on peut le dire. Mm-hmm. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais...
Et kitsch, quoi, quand même.
Complètement kitsch, ouais. C'est ce que j'avais... C'est ce que je m'apprêtais à dire un peu, un côté arty, côté référence aussi un peu à Andy Warhol, ce genre de choses. Très précurseur, à mon avis. Je pense qu'il a marqué une génération, ce film. À mon avis, ça dénote tellement des années 60... Enfin, dans les années 70, t'avais ce côté un peu libération des mœurs, etc. Mais ça allait pas souvent aussi loin, pas forcément dans cette direction-là. Et dans Phantom of the Paradise, c'est un éloge du bizarre, ce que j'ai marqué en le regardant. Il y a des plans qui sont iconiques. Je pense que tout le monde a vu dans sa vie la tête, le masque du fantôme. Tout le monde l'a vu quelque part, quoi, sans avoir vu forcément le film. On l'a vu. Je me suis dit aussi que, par exemple, des musiciens modernes comme Daft Punk ou d'autres ont dû s'inspirer aussi de ce film, ou en tout cas ont été inspirés par ce film, ont été touchés par ce film. Il a beaucoup de personnalité, je trouve. On sent vraiment ça. On a presque l'impression, je trouve, de regarder un film d'étudiant, dans la mesure où il a mis quelque chose de très personnel, à mon avis, De Palma dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le film ne ressemble à aucun autre. Non, on est d'accord là-dessus.
Aucun autre film en général ou aucun autre film de sa filmographie à Brian De Palma.
Ah bah même de sa filmographie.
Ouais, je pense. D'accord, oui. Il sort vraiment... quand même, ouais, complètement. Et en effet, c'est un film aussi, oui, singulier par sa C'est vraiment dur même au niveau du genre, quoi. Enfin, c'est comédie musicale, mais c'est de la comédie, c'est sombre, c'est un mélange vraiment...
Cruel et naïf à la fois.
Ouais, voilà. Les personnages, ouais, comme tu dis, et puis ils ont tous, comme tu disais Mathieu, ils ont tous des gueules, ils ont tous, à part elle, ou peut-être, oui, peut-être que c'est un peu la part un peu...
Il y a elle, et puis il y a le bras droit un peu de Swan aussi, qui est plus normé, qui est plus... qui n'a pas forcément...
Bah lui, c'est marrant parce que j'ai trouvé que c'était le seul, donc le bras droit qui est une sorte un peu de mafieux de la musique. Lui, ça, je trouve que c'est presque le seul comédien qui joue sérieusement. Donc, tous les autres sont dans l'exagération perpétuelle. Voilà, lui, il est au contraire, il est plus dans un registre traditionnel. Il dénote parce qu'il est presque normal, alors que tous les autres sont des frics. C'est beaucoup ça, je trouve. Côté très fric. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des passages qui sont troublants. Il y a plusieurs passages qui sont troublants. Moi, je me suis demandé qu'est-ce qu'il avait en tête de Palma en faisant ces séquences, ces scènes. Je pense, par exemple, quand Leach s'échappe de la prison. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il se jette sur un carton qui va sur un tapis roulant et il se retrouve après emballé dans un carton. Il y a un côté comme ça de brique et de broc, pas du tout réaliste, mais on plonge dedans. C'est un film fantastique et en même temps...
Oui, c'est un conte noir, mais c'est un conte. On voit bien, oui, comme tu dis, ce n'est pas très réaliste. Il y a plein de... Enfin, voilà, c'est le sujet, tout, rien n'est réaliste quoi, dans ce film quand même. Parce que, bon, il y a une histoire de diable aussi quand même, pour le dire. Quoi. Enfin, je pense que c'est quand même important, puisque en plus tu faisais la parallèle avec Faust.
Mais oui.
C'est ça, il y a une espèce de double mise en abîme, parce que c'est une adaptation... Dans le film, on parle d'une adaptation de Faust moderne, et les personnages sont aussi en train de se retrouver... Enfin, tous les personnages sont en prise avec le diable et sont amenés à signer un pacte avec lui. Quasiment. La chanteuse, le protagoniste et Swan lui-même. Donc c'est pareil, c'est, encore une fois, on rentre dans le miroir qui lui-même est dans un miroir qui... Voilà. Donc, drôle de film. Moi, je trouve que c'est vraiment un drôle de film qui vaut le détour juste pour... ne serait-ce que pour ça, pour la culture cinématographique, parce que c'est un film qui sort du lot, qui est étrange, et que de temps en temps, ça fait du bien de voir des films étranges aussi qui sont moins normatifs, qui sont moins classiques. Donc, voilà, rien que pour ça, c'est intéressant.
Bah, j'ai l'impression que le cinéma sert à ça aussi. À sortir d'une réalité, et puis tu rentres dans quelque chose d'autre. C'est une expérience. On te lance dans une expérience. Et je pense que ça sert à ça, le cinéma, pour moi, personnellement.
Mais complètement.
Bah oui, les trois films qu'on a choisis, c'est des univers complètement différents.
Ouais, et ça, c'est très clair. Chouette, d'ailleurs. Ouais, je suis très content de ça. C'est que les trois films d'aujourd'hui sont trois films bien différents les uns des autres, avec des ambiances très différentes. On va découvrir différentes cultures. Et c'est assez complémentaire. Maud, du coup, toi, qu'est-ce que tu voulais nous dire à peu près?
Moi, je pense qu'on a bien fait le tour, mais après, moi, j'avais choisi ce film. Moi, je l'ai découvert quand j'étais adolescente. Mais pour moi, ça avait été vraiment. J'avais vu un ovni. Enfin, j'étais là, mais c'est en plus, j'ai adoré aussi la musique. Du coup, je m'étais acheté la cassette audio de la musique du film que je n'arrêtais pas d'écouter en boucle. Alors, moi, je connais tout par cœur, les paroles, les musiques, tout ça. Et je suis fan absolu, mais voilà, pour moi, c'est le film culte, mais comme pour plein de gens, c'est pas... je pense que c'est mon film culte, que je peux voir avec plaisir. Je l'ai revu hier, encore. Et voilà, moi, j'aime l'univers sombre de ce film, même si c'est vraiment décalé, c'est un peu... C'est très drôle aussi, quand même, parce que, bon, t'as un personnage aussi, genre, bif. Le chanteur.
Je voulais en parler, j'ai oublié. Ouais. Avec sa gueule.
Encore un personnage fort. Quoi.
Travesti. Il y a des moments vraiment très drôles. Et c'est vraiment, comme vous disiez, c'est des gueules, quoi. Et voilà, pour moi, c'est un film culte. C'est pour ça que j'avais envie de le proposer. Et moi, de A à Z, j'adore ce film, qui peut-être déconcertant aussi, quand même, je pense.
Complètement.
Et je l'ai revu il y a... il est ressorti en copie restaurée il y a un peu moins de 10 ans au cinéma, et je l'avais revu, donc je l'ai vu pour la première fois sur grand écran. Il y a un peu moins de 10 ans, c'était au Luxor à Paris. Une séance spéciale avec, par le distributeur. La salle était pleine à craquer. J'étais sur le balcon du Luxor. J'étais trop contente. J'étais vraiment heureuse de voir ce film sur grand écran. Voilà, la musique, l'ambiance, tout. Enfin, voilà, pour moi, c'est... Alors, je ne suis pas fan, comme Mathieu, de la comédie musicale, mais alors ce film, c'est pour moi, voilà, c'est... Voilà, je suis très contente de l'avoir proposé. Et je suis contente aussi que vous ayez bien aimé aussi. Voilà, donc...
C'est marrant parce que c'est, on dit une comédie musicale, mais c'est aussi un peu un film d'horreur, c'est aussi un drame.
Ouais, voilà, c'est une comédie musicale parce qu'il y a quand même quelques parties chantées dedans, mais c'est pas non plus...
On n'est pas dans du Disney où les personnages vont se mettre à chanter.
Ouais, mais il y a quand même... Oui, quoi. Ils prennent pas le thé. Il y a quand même les morceaux de A à Z des morceaux, enfin tu vois, c'est pas...
Mais ça fait partie de l'histoire. Pour le coup, c'est imbriqué dans l'histoire, c'est pas...
Ah oui, c'est un opéra rock, donc vraiment les morceaux... Et puis vraiment, moi j'aime beaucoup la musique, hein. Voilà, pour autant le film il peut être kitsch, autant la musique je la trouve vraiment très très bien.
Moi j'avais envie de vous poser une question là-dessus parce que j'ai ressenti quelque chose et en tout cas j'ai réfléchi un peu à ça. Qu'est-ce que De Palma pense des Juicy Fruits? C'est-à-dire que pour lui, est-ce que c'est de la soupe ou au contraire c'est de la bonne musique?
J'ai l'impression qu'il... Que c'est de la... Enfin, tu vois, qui prend pas ça, qui se moque pas trop, non, au contraire.
Ok, parce que c'est assez différent. Il y a l'univers au début des Juicy Fruits qui sont les, un peu l'équivalent des Beatles, on va dire, ou des Beach Boys. Ouais,
j'ai fait des toutes petites recherches, parce que j'ai pas fait vraiment de recherches. Mais la musique, elle a été écrite par Paul Williams qui joue donc Swan. Et lui, il avait un groupe. Le Juicy Fruit, apparemment, c'est un hommage à l'ancien groupe de ce mec-là qui s'appelait les Faux un nom comme
ça.
Ah,
bien sûr, je connais.
Voilà. Okay, et ouais, parce que là, voilà, aussi de savoir que c'est lui qui a écrit les paroles, parce que vraiment, il a un visage et il est particulier quand même, ce Swan, où les femmes, elles sont. Enfin, c'est juste.
Et c'est de l'adoration.
L'adoration.
Une idole. Mais,
en plus, pas que par les femmes, puisque lui, il est vraiment adoré par tout le monde. C'est vraiment... même les gens sont complètement barrés, quoi. Rien que la scène finale, où il se passe des choses affreuses, ben, en fait, le public est à fond. Enfin, c'est...
Ouais, ben on est typiquement dans un phénomène de masse, de la dissolution de la volonté quand on est entouré de personnes et qu'on est soumis à une sorte d'idolâtrer à quelqu'un. On en oublie toute... Tout notre côté civilisé. Effectivement, il se passe des trucs complètement horribles et tout le monde souscrit à ça sans problème.
Ouais, mais ce groupe, là, je l'ai vu un peu comme une espèce de boys band aussi.
Voilà,
c'est ce que je me disais. Mais qui avait été créé de toutes pièces pour l'industrie de la musique.
Exactement, c'est ce que je me suis dit aussi. J'avais l'impression qu'on avait du coup deux univers qui se confrontaient. L'univers des Juicy Fruits et de Swan, qui est finalement le côté mercantile ou commercial de la musique, où tout est bien... carré, pensé à l'avance, produit, voilà. Et à côté de ça, on a le talent brut de Leach, qui, lui, n'est pas fait pour la scène, enfin, n'est soi-disant pas fait pour devenir une star, mais qui a un vrai amour de la musique, plus sincère, une vraie connaissance de la musique.
C'est ça qui est fou, je trouve, parce qu'il a vraiment un côté naïf de penser que Swan, ce héros de la musique... qui monte un groupe très boys band, va pouvoir s'intéresser à sa musique et va pouvoir faire décoller un peu sa carrière, alors que c'est deux univers complètement différents. Et pourtant, lui, il y croit.
Et il a du mal à comprendre aussi, quand même, parce que...
Il est un peu... Ouais,
parce qu'il se fait quand même jeter de partout, mais il insiste, hein. Et vraiment, il se fait avoir en plus, mais en insistant, et pas en cap... Mais même quand après il pactise avec Swan, même là il a confiance encore. Ah, alors qu'en fait, finalement, non, pas du tout, quoi. Il est donc très, très, très naïf.
Très naïf, malheureusement. Mais c'est le trait un peu marquant des génies, quoi. C'est les mecs qui vivent dans leur monde et qui n'ont pas trop conscience de la réalité du milieu. C'est ce que je me suis dit, en tout cas, en regardant le film. Ok.
Moi.
Vous avez envie de rajouter quelque chose?
Bon, moi ça va.
Est-ce que la comparaison avec The Rocky Horror Picture Show te paraît pertinente,
oui.
Mode
ouais. Bah oui, carrément. Bah, même époque.
Même genre un peu. Comique, musical.
Je trouvais que les chanteurs se ressemblaient aussi dans les looks, dans les manières de surjouer. Voilà, après, moi, je parle d'un, enfin, de The Rocky Horror Picture Show. Je l'ai vu vraiment très, très, enfin, très, très jeune. Je parlais de jeune adulte, mais c'était, je sais pas...
T'avais 4 ans, ouais.
Mais c'était une proposition aussi d'un copain, qui, lui, adorait ce film-là. Et pareil, j'étais un peu tombé de ma chaise en me disant « Qu'est-ce que c'est que ce film ? Qu'est-ce
que c'est que ce truc ?» Dans les deux cas, on est dans l'éloge du bizarre, de l'anticonformiste, je crois.
Il y a un côté rêve, un côté pas très ancré dans la réalité.
Finalement. Ouais, un truc qui est une rêverie. Compte, quoi,
ouais. Ouais.
Glauque ou pas, mais...
Et c'est marrant parce qu'il a une patte, c'est un film américain, Phantom of the Paradise, mais il a une touche anglaise, je trouve. Hein? Non ? Moi, j'aurais imaginé que ça se passait en Angleterre. Je crois que ça se passe aux États-Unis, mais moi, j'avais l'impression que ça se passait en Angleterre.
Voilà.
Ah oui, parce que je trouve qu'on ne reconnaît pas spécialement la société américaine dans le film. Tout le monde est blanc. On est plutôt... je trouve que ça m'a fait plus penser aux Beatles, à ces choses-là, que... c'est après moi aussi l'approche que j'ai de la musique américaine, qui est un peu plus tournée vers la soul, le rhythm and blues, le funk, le jazz, tout ça. Donc, pour le coup, j'ai pas... Ça parle pas de ça. Donc c'est vrai que moi, je me suis plutôt imaginé en Angleterre. Donc, et ce côté un peu bariolé des Anglais. Les Anglais ont un côté un peu bariolé. Derrière leur sérieux habituel et emblématique, ils ont aussi un côté complètement foufou.
Voilà. Okay.
Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire.
Très bien.
On peut passer à autre chose. On va maintenant parler, on va changer complètement d'ambiance, complètement. D'époque, de lieu.
De continent.
On va parler tout de suite de Zatoichi.
Bye.
Et nous sommes de retour dans Pizza 3 métrages. On va maintenant parler de Zatoichi, un film que j'ai proposé et qui est sorti en 2003. C'est écrit, réalisé, monté par Takeshi Kitano. Il joue aussi l'un des rôles principaux. La musique, est, contrairement à d'habitude, n'est pas de Joe Hisaishi, mais de Keishi Suzaki. Le film est assez difficilement trouvable sur les plateformes traditionnelles en ce moment. Il est en cours d'acquisition sur MyCanal, ça ne devrait pas trop tarder à arriver, et sur Univers Cinéma.
Univers Ciné,
voilà, merci. De quoi parle le film ? Alors, ce n'est pas facile de résumer toute l'intrigue parce que c'est une histoire assez tentaculaire qui va nous parler de plusieurs protagonistes différents qui vivent chacun, enfin, qui ont chacun un peu leur but. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans ce film, c'est que c'est un peu un film choral. On va essayer de résumer ça en disant que c'est une histoire de vengeance. Un frère et une sœur cherchent à retrouver les membres d'un clan qui ont décimé leur famille. On n'est pas très loin de l'intrigue qu'il y avait dans Kill Bill. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Kill Bill 1, le personnage joué par... comment elle s'appelle l'asiatique
Lucy Liu,
merci. Qui, pareil, c'est tout son clan, enfin toute sa famille s'était fait tuer et elle cherche après à se venger. Voilà. On est un peu dans ce genre d'histoire-là et Kitano, lui, joue Zatoichi, un personnage culte de la culture japonaise, c'est-à-dire un masseur aveugle qui est un sabreur hors pair avec son sabre caché dans sa canne. Voilà. Est-ce que j'en ai dit assez ? Je ne sais pas, on va dire que oui.
Bon, bah, on va développer un peu.
On va développer un peu, Mathieu, tu vas ouvrir la balle.
Zatoichi, alors, je vais commencer pareil, hein. C'est un film que je ne connaissais pas, et que j'ai vu hier, donc 1er janvier, lendemain du 31, et que j'ai vu en sous-titré en anglais, parce que c'était compliqué de le trouver en sous-titré en français, donc les premières minutes, je me suis dit, mais dans quoi je me lance. Et pareil, Kitano, je ne connais pas vraiment sa filmographie. Je ne connais pas non plus sa vie parce que même si vous connaissez sa filmographie, vous n'êtes pas forcément au courant de ce qu'il a fait avant. Et ça, peut-être que Thomas pourra en parler un peu plus.
Avec plaisir.
Donc voilà, c'est ce personnage... ce personnage aveugle, beaucoup de personnages aussi, beaucoup d'histoires qui s'entremêlent, de clans. Donc le fait de l'avoir vu en VO sous-titré en anglais, il y a certainement des petits détails qui sont passés à la trappe. Mais tous ces personnages qui s'entremêlent, ça a été... moi, je l'ai vu un peu comme ce personnage annexe une intrigue entre deux, trois clans et ce personnage qui est au milieu, qui va jouer un petit peu le régulateur de ces conflits. Après, je trouvais que les combats, par moments, étaient un peu gratuits. Les effusions de sang sont assez rigolotes, les effets spéciaux.
Ça, c'est une tradition chez Kitano. Hein.
Il y a un effet spécial que j'ai adoré, qui fait pas du tout vrai, mais c'est quand il est sous la pluie, il y a un parapluie sous la pluie, et on voit l'eau qui rebondit sur le parapluie, mais ce n'est pas naturel, enfin, il n'y a aucune pluie qui fait ça sur un parapluie. Mais j'ai trouvé ça tellement beau. Pour le premier film, on parlait de contes. Enfin, moi, j'ai parlé de contes et je trouve qu'on est complètement là-dedans aussi avec ces petites transitions. Je crois qu'il y a deux chansons au milieu et donc on peut couper le film en trois aussi. Donc, une des manières de décrire un conte, c'est toujours un peu en trois parties, en trois actes. Et donc, on retrouve ça.
Ouais, c'est vrai.
Et puis à la fin,
et la résolution.
C'est à la fin du film. Enfin, à la fin du film. Le film se termine.
À la séquence finale.
Oui, la séquence finale. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et au final, ça rentre parfaitement dans
Ah, moi, je l'adore.
L'intégralité du film. J'ai bien aimé, hein, mine de rien, j'ai bien aimé ça, ce film. Alors que, pareil, c'est pas je suis pas un grand fan de cinéma asiatique. J'étais surpris qu'il sorte, que ce soit un film de 2003 aussi. On aurait très bien pu être bien plus tard que ça.
Ça plus récent, tu veux dire ?
Non, plus vieux. Plus vieux. Mm-hmm. Donc ouais, 2003, ce qui n'est pas si vieux que ça.
Presque 20 ans quand même.
Ouais, presque 20 ans quand même. Mais,
C'était une époque en plus où les films de sabre étaient totalement en perte de vitesse. Déjà, ça n'a jamais beaucoup marché en Occident, mais ça n'existait quasiment plus au Japon même. En 2003, quand Kitano s'attaque à Zatoichi, il y a déjà eu plein d'itérations sur Zatoichi. C'est un film qui a été fait, enfin, c'est un personnage qui a été utilisé des dizaines de fois au cinéma. Ça faisait déjà longtemps que ce personnage-là était tombé un peu dans l'oubli, même au Japon, enfin dans l'oubli, qu'on ne voyait plus au cinéma. Donc il a ressorti un peu ce...
Oui, c'est une sorte de personnage qui revient régulièrement dans la culture japonaise. Quoi. C'est ce que j'en ai compris. Quoi. Donc c'est une adaptation de...
Exactement.
Enfin voilà, il s'est accaparé ce personnage pour en faire quelque chose. Quoi. Et après, tous les personnages, je trouve, sont assez attachants. Mais même les méchants sont pas si repoussants que ça. Enfin, il y a plein de films où les méchants, on voit tout de suite que c'est un méchant, parce que déjà, il surjoue cette haine, cette méchanceté. Alors que dans ce film-là, je n'ai pas trouvé charismatique que ça, finalement.
Mm-hmm.
Voilà. Je ne sais pas trop quoi...
La tête du serpent... Elle n'a pas un côté charismatique, quand même. La tête du serpent, bon, vous n'allez peut-être pas comprendre si vous n'avez pas vu le film, mais c'est en gros le leader du clan du serpent, qui est l'antagoniste principal. Moi, j'avoue que quand j'ai découvert le film la première fois, j'ai trouvé que c'était assez stylé. Plus on avance dans l'intrigue, plus on découvre qu'est-ce qui se passe dans ce clan, qu'est-ce que c'est que ce clan. Et quand on voit finalement qui est le leader du clan, moi, j'ai trouvé ça assez stylé, quand même.
Ouais, tu te fais attraper, c'est sûr.
Ah bah oui, quand même. Et puis dans ce film, c'est assez c'est comme beaucoup de films de samouraï. C'est que, et encore, j'ai pas une grande culture de films de samouraï, mais c'est le ton de la comédie aussi quand même beaucoup. C'est hyper surjoué aussi. On parlait tout à l'heure de surjoué. Donc là, c'est vraiment surjoué. Et quand ils ont peur, ils ont peur. Ils sont très très peur. Ah, ils crient partout. Et puis bah, vraiment, c'est assez drôle la façon dont ils meurent aussi quand même quand ils se font voilà. C'est assez, moi je trouve que c'est assez drôle, quoi.
Ça c'est très Kitano, c'est qu'il peut pas s'empêcher, mais de la comédie tout le temps, partout.
Mais dans le côté surjoué, pour moi c'est un trait commun à la culture japonaise, enfin dans ce genre de film
très expressif en tout cas.
Avec des
cris, des
Ouais, et puis même dans les expressions aussi, hein, quand même c'est...
on est aussi dans une sorte d'hommage au théâtre japonais, aussi dans Kitano, et dans ce film-là aussi en particulier.
Oui, quelque chose de théâtral. Et...
J'en parlerai après, mais ouais.
Ouais, c'est comme un huis clos, même si ça passe dans un village, quoi. C'est vraiment... Et puis après, il y a aussi le fameux voisin qui court partout parce qu'il veut devenir samouraï.
C'est ça, il veut partir à la guerre.
Ouais. Et puis après, il y a aussi des personnages complètement farfelus, loufoques, et puis des personnages beaucoup plus sombres comme le samouraï indépendant là, qui va essayer le garde du corps qui va et au début pour sauver sa femme, sa fiancée, va aller dans l'équipe des méchants, des bad guys. Et c'est très lui, il est pas drôle du tout, hein. Je dirais pas un moment où
tragique.
Alors que autant les autres et puis après moi celui que j'ai touché, mais comme ils sont tous touchants en effet les personnages aussi, celui qui le joueur de le neveu de la dame chez qui le masseur Zatoichi va, où lui et je le trouve très touchant.
Je suis d'accord.
Et aussi ces deux frangins frangines là qui veulent venger leur famille,
qui sont presque eux les protagonistes au final.
Et donc c'est moi tous les rôles en effet. Moi je l'avais vu au cinéma ce film lors de sa sortie donc en 2003. Ça me rajeunit pas non plus, mais j'ai eu plaisir à le revoir Et tout de suite, quand le film a commencé, j'étais « Ah oui, c'est vrai enfin, !» Je me souvenais de la musique, j'ai adoré la musique, les rôles, les personnages. J'ai passé encore une fois un bon moment, en fait, à regarder ce film. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment très, très bien. C'est à voir, moi, je le conseille vivement.
Oui, je crois que c'est pour ça que je vous l'avais conseillé, que j'avais proposé ce film. C'est parce que pour moi, c'est un des meilleurs moyens de rentrer dans la filmographie de Kitano. Parce que je sais que d'expérience, que les gens parfois ont du mal à se diriger vers le cinéma asiatique parce que c'est intimidant, c'est culturellement très différent de ce qu'on connaît en Occident. Mais je trouve que celui-là n'est pas trop difficile d'accès. Même si, voilà, sous ses apparences de films de sabre, de films de samouraï et trucs comme ça, on peut se dire, ouais, moi, je m'en fous des films de sabre. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le sujet du film. Comme à chaque fois, Kitano, il a une passion, finalement, pour les mafieux, pour les yakuza. Et là, bah, ça parle des yakuza avant les yakuza, finalement. Ça parle un peu de ça. Bon, le vrai sujet du film, ce n'est pas les yakuza, mais il se sert de cet environnement-là pour, encore une fois, raconter ce qu'il a envie de raconter.
Ben ouais, dans le cinéma asiatique, moi, je trouve qu'il faut quand même être armé un petit peu. Faut se détacher de nos codes pour en prendre d'autres. Et c'est ce qui est compliqué à faire dans le cinéma asiatique. C'est pour ça que j'ai une petite réticence, j'avoue, où je peux être curieux pour plein de cinémas. Et quand je vois qu'il y a un film asiatique, je me dis « Oula, je suis pas armé.
» Ok, bah, je vais en parler un tout petit peu. Enfin, moi, justement, tu voulais...
Vas-y.
Ouais. On n'a pas abordé ça, mais du coup, moi, je vais aborder ce sujet-là. Le film, on n'a pas vraiment, finalement, dit de quoi ça parlait en détail. Mais le sujet principal, je crois, c'est que les apparences sont souvent trompeuses. On est d'accord ? Ne pas juger sur ce qu'on voit, ce qu'on pense savoir. Tout le monde, finalement, a un passé plus ou moins lourd qui nous hante, qui nous pourchasse. Et est-ce qu'on arrive à se libérer de ce passé-là ou pas ? Comment est-ce qu'on arrive à s'en libérer ? Il y en a certains qui sont prisonniers de leur passé, d'autres qui cherchent à le tuer, entre guillemets, comme le frère et la sœur qui ont besoin de se venger pour laisser derrière eux cette histoire sombre. Et Kitano... c'est quelque chose qu'il dit souvent dans ses films, c'est que pour supporter la vie, supporter la dureté de la vie, on a besoin de l'art, on a besoin du divertissement, et il élève justement le divertissement au rang d'art. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je trouve. Il crée de la poésie partout, et c'est visible, par exemple, dans ces séquences musicales du film, où on est en train d'assister, par exemple, à la construction d'une maison, et ça devient une séquence musicale. On a ces paysans qui travaillent dans une rizière et qui, avec leurs pieds, font des claquettes dans l'eau. Voilà.
Et ça se finit en grosse blague.
Ça se finit en grosse blague, ouais.
Pareil, du coup, c'est...
De burlesque.
Ouais.
Complètement. Voilà, on a à la base une histoire de vengeance très traditionnelle, très classique, qui a été déjà vue plein de fois, mais qui est détournée pour nous parler de ce... Ces illusions qu'on a, et c'est pas pour rien non plus qu'on Satoshi est un personnage aveugle a priori, je n'en dis pas plus, mais qu'est-ce que je voulais dire, mince,
vous voulez parler du côté théâtral aussi tout à l'heure?
Oui, des apparences du théâtre, oui, voilà, c'est-à-dire que dans ce film il va faire tout un ensemble de références à la culture japonaise, que ce soit au théâtre no, que ce soit à la musique, c'est-à-dire qu'on, l'art des geishas qui jouent de la musique, qui dansent. Genre la danse, dans ce film, c'est vraiment un moyen de se libérer. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça aussi, mais dans la séquence finale, où il y a un festival qui commence, tout le monde se met à danser, il y a de la musique, il y a des tambours, des claquettes, etc. Et c'est un moyen de célébrer la vie, célébrer aussi la victoire du présent sur le passé aussi. Et moi, j'aime beaucoup ce petit passage où on voit le frère et la sœur qui dansent et qui retombent en enfance et qui redeviennent adultes. C'est vraiment ça, on a toujours cette espèce de d'âme d'enfant en nous qui parfois est écrabouillée par la vie, par le passage de la vie. C'est vrai que parfois, on a tendance à oublier un peu ces moments d'insouciance. Et là, la musique, la danse permettent de se libérer de ça, de la pesanteur de l'existence. Donc moi, je trouve ça assez beau. Il fait plein de références à tout ça, à toute la culture japonaise dans son ensemble. Il fait des grosses références à Kurosawa aussi, et aux Sept Samouraïs en particulier. Il y a plusieurs plans qui sont vraiment des hommages à Kurosawa. Kitano n'a pas du tout le même style que Kurosawa dans l'absolu, mais par contre, c'est sans doute celui qui est le plus son fils spirituel. C'est assez surprenant, mais ils font partie des deux... Ces deux-là sont parmi les plus grands cinéastes japonais. Il y en a d'autres, hein, mais il y a une vraie filiation entre les deux, un vrai classicisme dans la mise en scène. Moi, je trouve qu'il y a plein de plans qui sont magnifiquement composés dans ce film, vraiment. J'aime beaucoup ce mélange qu'il est capable de faire dans tous ses films entre dramaturgie, côté tragique. On parlait du Ronin solitaire qui se fait engager comme garde du corps. C'est vraiment une figure tragique. C'est pas un mauvais gars. Il cherche à racheter son honneur.
Ouais, mais je l'ai pris pour un bon au début. Enfin, c'est-à-dire, c'est tout à son honneur de. Enfin voilà, sa femme est malade. Lui doit chercher du taf et le fait qu'il aille plutôt vers entre guillemets les méchants. Enfin, moi, je l'ai pris plutôt pour quelqu'un de bon au début. Et après, bon bah oui, il est amené à travailler pour le mauvais côté de la force, on va dire. Mais toi, c'est en ça où je disais que les personnages méchants entre guillemets n'étaient pas forcément clairs, et donc lui clairement ça en fait partie. Enfin, moi j'ai eu pas mal j'ai tout le temps eu de l'affection en fait pour ce personnage là et on se doute qu'il va y avoir une confrontation à la fin du film, mais pour moi c'est pas un méchant, fait son taf quoi.
Il est rarement là-dedans, Kitano. Il y a rarement des gentils et des méchants d'un côté. Tout le monde est à la fois bon et mauvais. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute sa filmographie. C'est ce que je disais juste avant. La vie est faite de bons et de mauvais moments. Et il met ça dans ses films aussi. Il y a toujours de la comédie et toujours du drame dans ses films. C'est une constante. Il ne peut pas s'empêcher de faire du burlesque. C'est dans sa nature. C'est son moyen aussi de rendre la vie plus acceptable. Et en même temps, il parle aussi de ce qui fait la beauté de la vie. C'est aussi certains moments de douleur, de souffrance. Parce que c'est inévitable, en fait, tout simplement. Il y a un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est, encore une fois, qui sert le récit. C'est pas juste un hommage à la culture japonaise, mais c'est les ninjas. L'art ninja, c'est vraiment quelque chose de traditionnel au Japon. Et ça apparaît relativement tardivement dans le film, mais ça sert totalement le propos. C'est-à-dire que l'art des ninjas, c'est l'art de passer inaperçu, caché, de se déguiser. Déguiser sa présence, faire disparaître sa présence, tout ça, c'est totalement dans la logique du film. Et ça a un vrai sens, en plus, dans l'intrigue, parce que c'est l'art des apparences. C'est l'art de ne pas dévoiler qui on est vraiment. Et Zatoichi, lui-même, est là-dedans. C'est pas un ninja, proprement parler, mais il a son petit mystère, il a son petit secret. La dernière phrase du film, elle parle vraiment de ça. Voilà. J'ai beau avoir les yeux grands ouverts, je ne vois rien. Voilà. Je vais juste rajouter, donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Kitano, c'est vraiment une personnalité emblématique au Japon. Il a fait une multitude de choses avant d'être réalisateur. Il a fait du stand-up, il a fait de la télévision, de la radio, il est producteur.
Ouais, c'est plutôt quelqu'un de marrant.
C'est complètement quelqu'un de burlesque. C'est un humoriste à la base. Et les Japonais ont eu du mal à comprendre quand il est devenu réalisateur.
Ce virage.
C'est ça. Il a eu la Mostra de Venise pour son film Hanabi. Et c'est à ce moment-là, en 95, je crois, de mémoire, c'est à ce moment-là que les Japonais ont compris qu'en fait, il était réalisateur. C'était un réalisateur sérieux, entre guillemets. Même si Hanabi, c'est un film aussi drôle et touchant à la fois. Voilà, donc c'est une personnalité touche à tout. Il est peintre aussi. Enfin, voilà, c'est un boulimique de l'art. C'est une personnalité que je trouve très intéressante et enrichissante. Voilà. On va pouvoir, encore une fois, changer de continent et d'ambiance avec Norway of Life. Thank you.
Même si je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je...
Tu veux pas marcher un peu plus vite dans ta foutue vallée ?
Là-bas, il y a toujours du soleil et des fleurs, même en hiver. Des mimosas.
Ah là, tu me fais rigoler, t'es avec tes casinos et tes mimosas. Tout ça, c'est du rêve et puis de la musique.
Peut-être. Il y a des jours où c'est tellement triste ici.
Bah, c'est triste parce que tu vis toute seule. Tu vivais avec moi, tu verrais.
Vous êtes gentil.
Et nous vous revoilà dans Pizza 3 métrages. Et Mathieu va nous parler d'un film norvégien qui s'appelle Norway of Life.
Qui, donc le titre d'origine, c'est, pardon pour mon accent norvégien, Den Brisomanen, que j'ai vu traduit par L'homme gênant. voilà, je sais
pas. C'est
trop.
Bien trouvé,
ouais. Donc sorti en 2006, réalisé par Jens Lien. Et le scénariste, c'était Per Schreiner.
Ah, mais je le connais.
Il a fait plein de choses dans sa vie. Mine de rien, Per Schreiner, qui est scénariste, qui va sortir un film d'animation en 2023, que peut-être on pourra découvrir à FIJAC, ça tombe jamais.
Yes.
L'histoire de Norway of Life, eh bien, c'est l'histoire d'Andreas, qui se retrouve dans une ville un peu étrange. Il ne sait pas du tout comment il est arrivé là, et nous non plus, on ne sait pas comment il arrive dans cette ville. Et on lui donne un emploi de comptable, en l'occurrence. On lui donne une maison, qu'il n'a pas forcément choisie, mais voilà, tu vas vivre ici maintenant. Mais très vite, il se rend compte qu'il y a des choses qui clochent un petit peu dans le fonctionnement de cette ville, dans... Les habitants qui sont un peu étranges. Et donc il va tenter de fuir cette ville, parce que ça ne le rend pas heureux. Et ça va l'amener à plein de rencontres, et une en particulier, Hugo, qui semble dissimuler un petit secret.
Très bien, merci pour ce résumé. Alors, je vais donner moi mon ressenti. Alors, évidemment, je ne le connaissais pas, évidemment. Non, je ne connaissais pas ce film, c'est pas forcément
quoi
évident.
Non, mais attendez, c'est n'importe quoi.
Le cinéma scandinave a peu tendance à sortir de ses frontières, c'est vrai. Hein. Malheureusement, parce qu'ils ont plein de super bons cinéastes, que ce soit en Suède, en Norvège ou en Finlande. Moi, j'ai trouvé. Donc, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Je suis rentré dans le film sans avoir rien lu dessus. Et c'est, j'aime bien faire ça, vraiment découvrir. Et donc, je n'ai pas été déçu. Hein. Très original, à la fois dans sa forme et dans son propos. Il y a des super beaux plans, je trouve, notamment quand ils sont dans le décor du début, là, dans l'espèce
de désert
norvégien.
Ouais.
Je ne sais pas trop où est-ce que ça peut être. Peut-être que c'est dans le nord du pays, je ne sais pas. Mais voilà, il y a une ambiance mystérieuse, brumeuse, je trouve, dans ce film. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plusieurs fois en arrière-plan, les nuages sont complètement gris, voire noirs. C'est assez déconcertant. Il y a pas mal de trouvailles visuelles comme ça qui sont assez sympathiques. Le propos du film s'éclaircit au fur et à mesure. Au début, c'est normal de déconcerter. Hein, c'est complètement voulu par le réalisateur, je pense. Donc, ça finit par s'éclaircir. Enfin, ça s'éclaircit petit à petit. Mais après, on retombe dans l'obscurité quand même assez brutalement à la fin, où on est ramené dans une forme de, d'interrogation. Où est-ce qu'il va ? Qu'est-ce qui va se passer ? Tout ça. C'est très absurde. Ça nous parle de... En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai pris le film. Ça nous parle de l'absurdité de la vie de tous les jours, de la modernité, peut-être. Ces besoins matériels ultra prononcés, ce standing de vie qui est très aseptisé, où on parle avant tout de besoins matériels et pas vraiment de notre sensibilité, ce genre de choses. Il a du coup un humour pince sans rire qui est là tout le long du film avec des dialogues un peu étranges. On n'est pas très loin finalement, de l'humour de Jim Jarmusch dans Dead Don't Die, avec juste des séquences de dialogues minimalistes complètement absurdes qui marchent plutôt pas mal, je trouve. Ce que je me suis dit à un moment donné, parce qu'on a un plan fugace qui est assez éclairant, je trouve, c'est que ça serait pas en fait le rêve d'un Norvégien qui voudrait vivre en Italie. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on est dans une ambiance froide où personne ne s'aime vraiment, où personne ne vibre, ça manque de divertissement, enfin ça manque de plaisir, voilà. Et à un moment donné, on a une espèce de mini aperçu de ce que fait rêver tout le monde, c'est de la musique, une belle table avec plein de bouffe, voilà, du soleil.
Oui, ça fait bizarre de voir cette image d'un coup, d'ailleurs, alors que ça fait un moment qu'on est plongé dans du gris.
Ça a des couleurs beiges.
Exactement. Il y a un bon jeu des comédiens, je trouve qu'ils arrivent bien à s'en sortir, parce que c'est pas facile à jouer tout ça. C'est une espèce de platitude. Voilà. Donc, c'est hyper original et je me demande comment il a eu l'idée de faire un film comme ça, d'aller aussi loin, de pousser le curseur aussi loin dans l'absurde. Donc, c'est vraiment pas mal. Je suis content de l'avoir vu aussi parce que voilà, c'est des films qui sortent de l'ordinaire. C'est du vrai cinéma pour moi. Donc, voilà, je suis très content d'avoir découvert ce film-là. Merci de me l'avoir fait connaître, Mathieu.
Ouais, pareil, moi j'ai été vraiment agréablement surpris. J'en avais jamais ni le titre, ni rien, acteur, réalisateur, rien. Mais du coup, je suis très contente de l'avoir vu. Et j'ai été agréablement surprise. En effet, l'absurdité, voilà, c'est très drôle, l'humour noir. Ces repas tellement... Ça donne envie d'y être. Ces
malaisant. Repas entre...
Ce repas entre amis, très festif. Oui, il se retrouve avec en plus sa femme. Ils font des travaux. Et puis après, une fois que les travaux sont finis, il dit « Ah, mais si on repeignait tout, si on faisait tout, quoi, si on recommençait. » Enfin, le truc affreux, quoi, en fait... où lui, il commence à se dire « il y a un truc qui ne va pas quand même ».
Ouais, c'est un peu bizarre. Hein.
et en plus, la gueule de l'acteur, très bien trouvée, parce que je trouve qu'il fait vraiment ahuri, passe-partout, naïf.
Un peu beau gosse, mais en même temps, un peu passe-partout, effectivement.
Ouais, voilà, pas de charisme particulier, pas de... Enfin, voilà. Et puis lui, au début, on le voit, il suit... Enfin, comme il arrive là, puis bon, bah, OK, on lui donne un boulot qui... on sait même pas ce qu'il fait, hein, mais voilà. Dans un immeuble de bureau. Et là, en plus, une des premières images qu'on voit quand même... Enfin, ça fait 5-6 minutes, on voit quand même, il sort dans la rue et il voit un mec quand même qui s'est défenestré et qui est accroché à un grillage où il y a des gens qui passent à côté. Tout le monde s'en fout à part lui qui regarde, et en fait il y a des gens, genre des nettoyeurs ou des voilà, enfin, et qui essayent d'enlever le corps, ils n'y arrivent pas parce qu'il est accroché aux grilles. Voilà, il y a beaucoup, voilà, c'est vraiment de l'humour noir, quoi. Et notamment là où j'ai vraiment ri, c'est je vous disais tout à l'heure, c'est la scène du train.
Ouais.
Mais vraiment là, j'étais là, mais non, enfin voilà.
C'est un moment où il pousse un peu le curseur, ça y est, parce que tout le film est
là, ça va loin.
Sur un rythme stable, et là, c'est ça y est. Là,
et surtout, elle est interminable, cette scène quand même, du train. Enfin, au début, on croit que ça va durer quelques secondes, ou que. Non, ça dure, mais ça dure encore. J'ai trouvé ça vraiment très drôle, et jusqu'à la fin, enfin, j'ai trouvé ça vraiment... Après, moi, je vais dire, voilà, peut-être que là, vraiment la dernière partie, j'ai trouvé quelques petites longueurs, mais parce que voilà, je pense qu'il a peut-être eu du mal à se dire mais comment il va terminer ça, quoi, en fait. Parce que je pense que c'est le problème de ce genre de film, en fait. C'est qu'au bout d'un moment, je pense que ça s'enlise dans quelque part et que bah, il faut bien qu'il finisse. Et que voilà. Et donc, bon, bah, après, voilà, j'ai trouvé que le film était vraiment... Et je suis très contente d'avoir découvert ce film.
C'est vrai que la fin est mystérieuse, quand même.
Et la fin est mystérieuse, oui, ouais, tout à fait.
Je vois du mystère partout. Enfin, voilà, on ne sait pas du tout comment...
Pourquoi
Pourquoi il arrive là, dans ce bus-là, qui vient de nulle part, et où il est tout seul. Il se retourne, genre... Ah bah oui, c'est moi, donc oui, il faut descendre.
Okay. Moi, je me suis demandé si c'était pas le paradis au début.
Bah,
un truc comme ça, de monde après la mort. Peut-être pas le paradis, mais monde après la mort.
Quoi. Ouais, en fait, c'est l'enfer, quoi, plutôt.
Ouais, non, j'en sais quoi.
En plus, il y a quand même un mec qui prend une échelle et à chaque fois qu'il met une banderole bienvenue, et à chaque fois, il l'enlève, et à chaque fois, il la remet, à chaque fois qu'il accueille quelqu'un, quoi.
Ouais, mais il tombe dans une société où il y a une injonction à être heureux. Enfin, il faut être heureux et on te donne quelque chose pour être heureux. C'est la consommation, le matériel, et que en fait, il n'y a plus que ça. Parce qu'il y a plein de choses qui manquent quand même à cette société. Il n'y a pas d'enfant.
Il n'y a pas d'enfant, ouais.
Il n'y a aucun enfant.
C'est vrai, ça. Je ne m'étais pas posé la question.
Il le disait.
Ils sont où, les enfants ?
C'est vrai.
Il n'y a pas d'enfant.
Mais non, mais... Ouais.
Et
tout le monde est sous contraception.
Ouais. Et
en même temps, comment ils font l'amour, tu dis... Bon.
Bah ouais, mais voilà, il n'y a pas de plaisir non plus. Enfin, sens que c'est une société où tous les plaisirs de la vie ont été retirés. La bouffe qui n'a pas de goût. Et à un moment, il y a une scène où il va déjeuner, après son premier jour de boulot, il descend dans la rue, c'est là où il voit le gars, et il mange son sandwich, et ça n'a pas de goût. Et en fait, moi, j'y ai vu notre société post-Covid, là, où plus personne n'a le goût, plus de l'odorat, et tout est... il ne se passe plus rien dans la ville, tout est triste et morne, et j'ai vu le temps d'une scène un peu ce monde-là.
Oui, c'était drôle, hein, cette histoire de pas de goût après notre expérience Covid.
Ouais.
Après, le film a été tourné bien avant.
Ouais, c'est clair. J'y ai vu un peu du 1984 aussi, avec des personnages qui ont des métiers qui servent. Enfin, on ne sait pas trop à quoi ça. Est-ce que ça a vraiment une utilité, en fait, parce que. Le gars, son patron vient le voir en disant « Non, mais si t'as besoin de prendre du temps pour la pause déj, tout ça, vas-y, hein, prends ton temps. » En gros, le mec, il pourrait ne pas bosser. Et en fait, c'est pas très important. Il va avoir son petit salaire à la fin pour pouvoir s'acheter un nouveau canapé, pour pouvoir ça, machin. Effectivement, les travaux qui n'arrêtent pas, que c'est fini, et puis on recasse.
Sinon, on s'ennuie, quoi.
Et on essaie de combler un truc. Ces gens-là comblent quelque chose.
Et puis quand il se fait virer, le mec qui le remplace, il est moins bon que lui.
Ouais, tu lui arrives pas à la cheville.
Il n'arrive pas à la cheville.
Pourquoi vous me virez alors? c'est au moment où il découvre quelque chose aussi. On va pas dévoiler ça, mais c'est au moment où il découvre. Il fait la rencontre de Hugo. Finalement, Hugo, il le rencontre très vite, dès le début du film. Et mais ce film, ouais, effectivement, il est. Il peut être pris de même. Enfin, c'est un univers triste et morne et où les couleurs sont beige et grises. Bref, c'est très scandinave. Mmh. Mais en même temps, lui, ça lui convient pas du tout, quoi. Pas du tout. Il lui manque trop de choses. Il lui manque la vie, tout ce qui fait la vie, quoi. Tous les petits plaisirs de la vie. Le soleil n'est pas là. C'est forcément gris. Ouais. Tout est gris.
Mais ils ont réussi à rendre quand même une belle esthétique malgré ce côté gris, morne, tout ça. Je trouve que mine de rien, il y a quand même une belle esthétique dans ce film, très scandinave, effectivement, tout en brillance, en reflet, en niveau de gris. Bon, c'est pas toujours comme je le dis, ça fait pas forcément rêver.
C'est très moderne, moi, je trouve. En fait,
c'est très moderne,
c'est très moderne parce que j'ai des amis qui ont refait leur déco chez eux, et c'est gris, il n'y a plus de couleurs, et en fait, c'est flippant parce que. Moi, j'aime bien ce film parce que en fait, on pourrait tomber un peu dans ce genre de monde sans trop faire gaffe, quoi. Alors, j'ai une petite aparté, mais il m'arrive d'écouter un peu quelques émissions de radio sur le service public, sur France Culture. Et donc là, ils ont sorti une émission sur pourquoi, justement, dans nos intérieurs, toute la couleur est en train de disparaître. Pourquoi on a des canapés qui sont... gris, toi, c'est hyper esthétique, hyper minimaliste, très tac-tac, que je n'ai pas écouté encore, mais je trouve que ça fait écho un peu à ce film où...
Tu nous en parleras dans la prochaine émission.
Bah voilà, je ne vais pas parler d'un film, mais d'une émission de radio.
Pourquoi la couleur a-t-elle disparu de nos vies quotidiennes ? Pour répondre à cette question, j'ai commencé par regarder dans les couloirs autour de moi, puis par la fenêtre, devant la maison de la radio, dans le quartier autour. Le constat, bien que très localisé dans cet exemple, s'applique à bien des domaines. La couleur semble avoir disparu de notre environnement, du moins en Occident.
Et j'ai une grande affection pour ce film. Pareil, je ne me souviens pas comment je l'ai récupéré. Mais je prends beaucoup de plaisir à le revoir, parce que le personnage principal, pareil, donc, quand il se coupe le doigt à un moment donné, volontairement.
Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette scène. Ouais.
Et la manière dont il réagit, genre,
un truc avec les doigts.
Oh genre, il essaie d'appeler à l'aide un petit peu à sa manière. Et t'as tous les gens qui arrivent. Ah non, mais tu peux pas rester là. Hein.
Mais en plus, on lui dit, oui, le serait. Mais qu'est-ce que t'as foutu?
Qu'est-ce que tu as fait? Tu peux pas rester là.
Mais qu'est-ce que t'as fait?
J'aurais des mois. Non, ça ne revient pas.
Mais on peut même se demander pourquoi est-ce que lui fait ça. Est-ce que ce serait pas pour ressentir quelque chose?
Ou peut-être pour se sortir d'un rêve.
Peut-être pour se réveiller.
Ouais. Vas-y, mais attends.
C'est pas ça qui va l'aider. Hein.
Ben non, mais c'est ça qui est assez bizarre, c'est que cet épisode du doigt, ça se résout assez normalement. Et tu parlais de la scène du train, où au final, il se fait démonter. Et pourtant, il est toujours là. Et il rentre chez lui. Il est complètement sanguinolent. Et sa femme lui dit « Ah tiens, on soit des amis samedi et tout. »
Et puis quand il veut se séparer de sa femme aussi, mais tu veux pas attendre samedi, enfin week-end prochain, parce qu'on a des amis qui arrivent.
Pas de réaction, pas de sentiments, pas d'émotion.
Bah ouais, mais du coup il en joue un petit peu, où il sait que en fait, quoi qu'il se passe, les gens vont le prendre à la cool, donc chérie, je m'en vais, voilà, merci, bonsoir.
Mais il en est victime aussi, avec ça, du coup, sa relation adultérine.
Ingeborg.
Ingeborg.
J'ai retenu ce nom.
il en est victime aussi, de ça. Il le vit à ses dépens.
Ben ouais, je pense qu'il a un petit espoir de vivre quelque chose
d'intense.
Et au final, elle prend tout de manière assez plate.
Ils sont tous sympas.
Ouais, ils sont sympas. Mais toi aussi, t'es sympa. Non, mais t'es un mec bien. Mais les autres aussi, c'est des mecs bien. Mais tu préfères quoi? Il lui pose cette question. Mais il y a forcément un que tu préfères. Et puis, tout est égal. Tout se vaut. Tout est plat. Voilà.
Ouais, c'est triste de ne pas être capable de vivre quelque chose de sincère et de profond.
Ouais.
En tout cas, une belle...
Belle découverte. Quoi. Ouais. Mais pareil, j'aurais été à sa place, j'aurais essayé de fuir encore plus. Quoi. Il sait qu'il est venu en voiture. Enfin, il y retourne d'ailleurs, il retourne sur le lieu.
Il essaie de suivre.
Mais il essaie de suivre le bus qui... Il n'y arrive pas. Bon.
Qui se volatilise.
C'est ça.
On va nous aussi pas tarder à se volatiliser, mais avant ça, on va vous parler un peu peut-être de nos visionnages actuels, de petites suggestions sur ce qu'on a regardé ces derniers temps pour éventuellement vous donner quelques idées de programmes à regarder. Maud, est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller ?
Alors moi, je voulais conseiller, je l'ai vu il y a quelques temps déjà, mais c'était la série Le Monde de Demain sur Arte, vous l'avez vu.
Pas encore, non.
Qui est donc sur c'est sur le hip-hop en France, en fait, sur l'arrivée du hip-hop en France. Et donc, on suit trois destins, on va dire. Enfin, c'est histoire vraie, hein, puisqu'il y a la formation du groupe NTM, le DJ Dynasty, qui, lui, va importer la musique hip-hop en France, et qui revient des États-Unis, en fait, qui découvre le hip-hop, la culture hip-hop aux États-Unis. Et Lady V, une graffeuse de... Voilà, ou NTM, c'est des graffeurs aussi d'ailleurs, à la base. Et donc cette série, 8 épisodes, super, très très bonne série, je la conseille vivement. Et j'ai pas regardé s'il est encore disponible quand même.
Je crois qu'il y est toujours.
Ouais, bon, et bah super, tant mieux.
Je crois que c'est sur Netflix aussi.
Ah oui.
Je crois que c'est à la fois sur Arte et sur Netflix.
C'était peut-être une coproduction, ouais. Bon, en tout cas, voilà, très bonne série, 8 épisodes, Moi, j'ai beaucoup aimé les acteurs, tout, enfin, vraiment. Et puis, voilà, ça m'a beaucoup parlé aussi, parce que hip-hop, j'aime beaucoup aussi.
Yes.
Et aussi, en même temps, c'était un petit conseil de sortie, concert à Figeac. C'est le 13 janvier, la soirée Born Bad.
Qu'est-ce que c'est ?
The Soirée Born Bad, c'est organisé par l'Astrolabe, mais Born Bad, c'est un label. Et en fait, il y a deux groupes super, dont un qui est vraiment génial, c'est Frustration. Et je conseille à tout le monde cette petite sortie, enfin cette grosse sortie, où voilà, Frustration sur scène, c'est de la bombe.
Super. Ce sera où ?
La salle Baleine.
D'accord.
Voilà.
Merci pour ces recommandations.
Mais qu'est-ce que j'ai vu dernièrement ? J'ai vu des bêtises. Hein. Ouais, c'était bien. Noël.
C'est bien. Pas des bêtises,
mais j'ai vu un film. J'ai revu Santa et compagnie quand j'étais en vacances. Et un film que j'aime beaucoup, sur Noël, de Alain Chabat, avec Alain Chabat, avec Pio Marmaille, avec Golshi Farani. Et je trouve que c'est un très bon film de Noël. C'est-à-dire que c'est... En plus, il y a l'univers de Chabat, donc après, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore.
Les gens aiment plutôt.
C'est drôle, quand même, oui.
Ouais, bah après, il y a des gens qui sont un peu réfractaires, quand même, à cet univers un peu-là. Mais j'ai tout... Et Oda Toto, d'ailleurs, aussi, dans le film. Et donc voilà, j'ai revu ça avec plaisir. Je trouve que c'est... Enfin, il y a tout une palanquée d'acteurs reconnus. Il y a Jean-Pierre Bacri en Père Noël aussi.
RIP.
Ouais. Voilà, donc ça, j'ai vu ça à Noël. Et puis j'ai revu à la télé Jumanji, le premier. Je me suis dit, tiens, ils vont faire un 2 et un 3. Donc j'ai vu les 2 et les 3. donc j'ai pris du plaisir, mais bon, ça vaut pas le premier. Et après, pour revenir un peu au cinéma scandinave, je trouve que c'est vraiment un cinéma à découvrir parce que on voit un peu ces sociétés comme étant un peu
coincées du cul.
Ouais, coincées, un peu froides, un peu machin. Et en fait, du coup, ils ont développé un humour grinçant un petit peu qui est vraiment à découvrir. Alors, de tête là, j'ai pas de nom de film. En fait.
Ah bah merci.
Bah oui, mais il y a l'art de quelque chose où c'est une personne handicapée en fauteuil roulant qui reçoit chez elle d'autres personnes handicapées, mais cette personne est acariâtre au possible et ça amène des situations. Enfin voilà, c'est très drôle. Je sais que je l'ai vu, mais il y a longtemps. En voyant la bande-annonce, je me dis, ah mais oui, mais j'ai vu ce film, mais je l'ai pas gardé. Je sais plus comment je l'ai vu d'ailleurs. Le cinéma scandinave, c'est peut-être un film dont je vais parler, peut-être pas forcément tout de suite, mais je le garde sous le coude.
Le temps de retrouver le titre.
Film en noir et blanc qui s'appelle Dark Horse. Donc noir et blanc, mais pas forcément tout le long du film. Il y a un détail qui va sortir en couleur. Pareil, grosse affection pour ce film que je vous présenterai avec plaisir.
Très bien.
Mais pas forcément le mois prochain.
Ok. On va faire petit intermède passé par d'autres pays. Moi, qu'est-ce que j'ai vu récemment qui m'a plu ? J'ai regardé sur France Télévisions une série de dessins animés. On va changer un peu de registre aussi. C'est l'adaptation de la bande dessinée française Last Man. La saison 2 est sortie récemment sur France Télé. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Last Man, qui est une BD très populaire chez les jeunes, notamment... On est dans une sorte de manga à la française, pour résumer très grossièrement, avec des combats, des choses comme ça. Mais c'est fait par des très bons artistes français. On retrouve Balax en la ville et Vivès à la création. Voilà, donc c'est hyper bien fait. Le scénario est relativement simple, mais marche très bien. C'est vraiment super bien fait. En tout cas, c'est ce que je retiens beaucoup de ces œuvres-là. Si vous aimez bien le graphisme, la belle animation minimaliste, mais chiadée, c'est top. Donc Last Man, voilà, c'est ma petite roco sur France Télévisions.
Série française.
Série française, ouais. Okay. Complètement française, qui a été notamment produite par le crowdfunding. Le petit truc un peu dommage, c'est que vu que c'est interdit aux moins de 16 ans, France Télévisions a décidé sur sa plateforme en streaming de bloquer le visionnage avant 22h30. Voilà. ils respectent un peu ce truc-là de on ne doit pas diffuser des choses interdites moins de 16 ans avant 22h30. Et du coup, on ne peut que regarder les épisodes à partir de 22h30. C'est un petit peu ballot, mais bon, c'est comme
oui.
ça.
Oui, je ne savais pas qu'ils faisaient des choses comme ça.
Ouais, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, en fait. Mais...
C'est okay. eux qui ont décidé de le faire. En plus, rien ne les obligeait à le faire et ils ont décidé de le faire.
Ouais.
Ok.
Voilà. Et je crois pas qu'il y ait moyen de tricher en changeant l'horloge de son PC. Je crois que c'est chez dans leur serveur à eux que c'est bloqué.
Peut-être avec un VPN.
C'est ce que je me disais, mais j'ai pas essayé. Mais je crois qu'a priori, c'est compliqué. Okay. Mais bon, voilà, c'est une très bonne série. En tout cas, si vous êtes friand d'animation et d'ambiance un peu badass, avec des personnages féminins et des personnages masculins forts, voilà, c'est assez moderne comme série. Moi, j'ai trouvé ça très chouette. C'était ma petite roco.
Eh bah super.
Voilà. Okay. Il nous reste à annoncer les films de la prochaine fois. Mathieu, qu'est-ce que tu nous prépares ?
Eh bien, je vais vous présenter un film de Darren Aronofsky, mm-hmm. et qui n'est pas Requiem for a Dream.
Ah !
Heureusement.
Ouf, on va pas
pleurer. C'est un film qui s'appelle The Fountain, avec Hugh Jackman et Rachel Weisz.
Tout à fait.
Eh bien, moi, mon prochain titre, un film récent, La nuit du 12 de Dominique Moll avec Bastien Bouillon, Bully Lanners, entre autres.
Très bien. Et moi, ce sera Bronson de Nicolas Winding Refn.
Avec Tom Hardy.
Avec Tom Hardy, le film qui a révélé Tom Hardy, effectivement, au grand public. Je ne sais plus quand est-ce que c'est sorti, mais c'était il y a bien 10 ans. Voilà, vous écoutiez Pizza 3 métrages. C'était un plaisir de passer ce temps avec vous, Maud et Mathieu.
Pareillement.
Pareil.
On se retrouve, comme toujours, on se retrouve en février, le premier jeudi à 21h du mois de février. D'ici là, nous, on sera un peu plus en forme, je crois. On a fait illusion quand même.
Ça va, hein.
Ouais, je pense qu'on
s'en est très bien sortis même.
Oh là là, incroyable.
Enfin, je crois.
Portez-vous tous et toutes très bien. Et à très vite.
Bah ouais, rendez-vous le mois prochain.
Au mois prochain, à bientôt.
À bien vite. Ciao, ciao.
C'est pas grave, ça n'a aucune importance, je ferai mieux la prochaine fois.
Je ne peux vraiment pas espérer avant. Ah non, le mois prochain, 3e mardi. Au revoir, mademoiselle.